Merci de rester connecté sur le poste national de la CRTV. Il est 20h et c'est l'heure du journal. Le 20h est une présentation de Bertin Ayangma.
Bonsoir. La FECAFOOT aux côtés de l'Agence des Nations Unies pour les migrations mondiales. Engagement pris par le président Samuel Tofis de sensibiliser les footballeurs et de lutter contre les migrations irrégulières. L'Aigle a pondu ses premiers matricules. L'application informatique de gestion logistique des effectifs et de la solde a généré ce jour plus de 1000 matricules au profit des fonctionnaires et contractuels d'administration. La modernisation de la fonction publique camerounaise véritablement sur les rails. Le dossier du 20h, la chaleur ambiante, accablante, forte et omniprésente de jour comme de nuit, constat, conséquences et effets sur la santé. Comment gérer la situation? Conseils pratiques dans un instant. Invité du 20h, Dr Ramsès Meillon, climatologue en service à l'ONAC. Bienvenue au 20h. Le Cameroun entend marquer d'un cachet particulier le Hadj 2025. Le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs président de la Commission nationale du Hadj, a procédé à la signature d'une convention fixant les conditions générales de l'organisation de ce voyage religieux en Terre Sainte de l'Islam. Les documents ont été paraphés à Djeddah entre la partie camerounaise et le ministre saoudien du Hadj et de Umrah. Tawit Al-Rabia s'est félicité des efforts consentis par le Cameroun pour l'encadrement de ses pèlerins. Écoutons à présent le ministre Paul Attangandi sur les directives présidentielles pour une bonne organisation autour de ce pilier de l'islam.
Le Hadj, c'est une activité qui intéresse le président Paul Biya. Et les instructions du chef de l'État au Minat, c'est que le Hadj doit être bien organisé et bien encadré. D'ailleurs, quand j'ai été nommé au ministère de l'administration territoriale, le chef de l'État m'avait instruit de mettre un terme au dysfonctionnement du Hadj parce qu'il y a eu des situations où les pèlerins étaient à Garoua ou bien à Douala, il n'y avait pas d'avion. Tantôt, après le Hadj ici, les pèlerins faisaient, je ne sais pas, 3-4 semaines sans avion. Mais avec l'aide du chef de l'État, les subventions du chef de l'État, depuis bientôt 5 ans, nous avons organisé le Hadj de manière satisfaisante. Les pèlerins arrivent ici pour un séjour de 24 jours et les autorités saoudiennes ont fait le constat que le Cameroun est l'un des pays africains qui organise le mieux le Hadj, dans le sens que nos pèlerins ne sont jamais abandonnés ici.
Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Tofis, s'engage à soutenir l'Agence des Nations Unies pour les migrations mondiales, OIM, dans ses missions de sensibilisation et de lutte contre la migration irrégulière, notamment dans le domaine du football. Engagement pris ce lundi en présence d'Abdel Rahman Diop, le chef de mission de l'Organisation internationale des migrations au Cameroun. Compte rendu d'audience, William Badier.
Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Tofis, a été reçu ce lundi 13 janvier 2025 par Abdel Rahman Diop, le chef de mission OIM au Cameroun, avec un but précis.
Ce travail que nous sommes en train d'entamer se base sur les résultats des jeunes migrants que nous avons accueillis au retour volontaire et à la réintégration. Nous avons compris, en les écoutant, que beaucoup d'entre eux étaient partis pour des raisons liées au sport, plus précisément liées au football. Et il était donc important de travailler avec la FECAFOOT, chercher à nouer un partenariat dans l'optique d'accroître les activités de sensibilisation.
La rencontre a connu deux articulations majeures dans la phase protocolaire. Programme des activités de l'année 2020 a été présenté par Jean-Yves Médan, suivi par un témoignage d'un jeune Camerounais arnaqué au cours de son aventure en destination européenne.
Nous intitulons cela du 2.0 au changement, du terrain de 2.0 pour aller justement vers des structures beaucoup plus pérennes, beaucoup plus solides. Donc c'est un partenariat que nous cherchons à nouer dans ce sens.
L'acte final de cette rencontre a consisté à la prise de parole du président de la FECAFOOT, Samuel Tofis, qui s'est engagé dans ce partenariat à soutenir l'OIM dans ses missions de sensibilisation et en protégeant les jeunes footballeurs camerounais sur les risques et les dangers de l'immigration clandestine.
Paiement de la prime de modernisation de la recherche universitaire. Les enseignants-chercheurs des universités d'État passent à la caisse pour le compte du quatrième trimestre 2024. Les virements bancaires ont débuté vendredi dernier et ce lundi 13 janvier, les paiements par billetage ont démarré auprès de l'agent comptable du ministère de l'Enseignement supérieur. Afin de s'assurer du bon déroulement des opérations, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a eu une concertation avec les enseignants concernés et assistés au début de l'opération. Le mérite de la disponibilité de cette prime revient au président de la République. Parole du ministre d'État, le professeur Jacques Famondongo, s'exprime ici au micro de Agnès Sylvienne Andiama.
Le chef de l'État a décidé de créer ce compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche universitaire. C'était le 8 avril 2009. Et cette dotation trimestrielle est payée régulièrement depuis 16 ans, malgré les difficultés dues à la conjoncture économique mondiale. C'est votre dû. Ce n'est pas une faveur qu'on vous fait, parce que vous enseignez bien. Vous êtes assidu, vous êtes ponctuel et vous avez un rendement optimal. Et ceux qui sont absentéistes, vous avez le devoir de les dénoncer parce qu'ils ternissent l'image de l'enseignement supérieur.
Le docteur Marie-Solange Ndom Ebongé Manga désormais aux commandes de l'hôpital La Quinquennie de Douala. Le nouveau directeur a été installé dans ses fonctions par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi a renouvelé sa profonde gratitude au chef de l'État, Paul Biya, qui ne cesse de doter le système de santé du Cameroun d'infrastructures d'hommes et de femmes de qualité, avec pour but ultime d'offrir une assiette de soins et de services toujours améliorés. Le dossier du 20h, l'œil sur le thermomètre. Le mercure monte partout dans le pays. C'est l'un des effets les plus visibles des changements climatiques. Même la cité balnéaire Kribi n'échappe pas à la canicule. Les précisions de Dieudonné Ngouaha.
Depuis le début de l'année, de fortes chaleurs sévissent dans la ville de Kribi. Ces températures élevées provoquées par les changements climatiques et accentuées par la proximité de cette ville avec l'océan Atlantique menace les populations locales.
La chaleur à Kribi, c'est intense et ça nous affecte la santé.
Même dans la rue, on ne ressent même pas le vent, rien.
Les populations de Kribi, à la recherche de l'air frais, utilisent des ventilateurs ou font recours à la climatisation. Cependant, le bord de la mer demeure l'endroit idéal pour se rafraîchir. Il y a aussi d'autres petites astuces développé sur place.
Parfois, on dort au sol. Quand ça ne va pas, on abandonne le lit. On essaye de mouiller le sol pour que ça soit un peu frais. Et quand ça ne va pas, on part faire un tour à la plage.
De temps en temps, nous consommons de l'eau. La plage, c'est le seul endroit de distraction pour le moment.
Il est donc question de s'adapter face à cette chaleur qui revient généralement chaque année à la même période à Kribi dans la région du sud et qui est adoucie par la petite saison des pluies de mars, elle qui vient aussi généralement rafraîchir. Kribi, Dieudonné Ngouaha, CRTV.
Les populations de la ville de Bertois et l'ensemble de la région de l'Est font face également à l'épreuve de la chaleur caniculaire et ses effets. Entre changement des habitudes et résurgence de certaines maladies, les effets de haute température riment avec nouvelles méthodes adoptées pour limiter les dégâts. Alain Roger Gounadjou, CRTV Est.
Déshydratation, épuisement, malaise et même d'autres maladies sont entre autres effets que vivent les populations de la cité capitale de l'Est en cette période de chaleur.
Il y a l'épidémie de la toux dehors, ça prend tout le monde, les enfants, les grandes personnes.
Dame Chaleur impose de nouvelles habitudes aux populations qui pointent le doigt accusateur sur les effets liés au changement climatique.
Les saisons, on les maîtrise plus. Ça, à l'époque, on savait qu'il y avait deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Maintenant, il y a des perturbations.
D'autres, par contre, épousent un regard croisé.
Je ressens la chaleur, mais j'ai l'impression que c'est douce cette année parce qu'il y a un vent là qui souffle aussi. Il fait froid quand même dans la nuit.
Il y va sans dire que les effets de la chaleur sont visibles dans la région de l'Est. Chacun s'y prend à sa manière pour combattre le phénomène. Bertois, Alain Roger Gounadjou, CRTV.
Le monde a connu au cours des deux dernières années une hausse de température inédite dans l'histoire de l'humanité. Le seuil de 1,5 degrés Celsius de réchauffement fixé par l'accord de Paris a été franchi. 2025 s'annonce aussi torride selon l'Office météorologique britannique. À Yaoundé, les populations peuvent déjà le ressentir sur leur peau et cela n'est pas sans conséquence sur le plan de la santé, comme le confirme ici ce reportage de Charles Abosolo-Oba.
James est un travailleur du secteur informel. Le jeune homme affronte chaque jour la chaleur accablante de Yaoundé pour gagner son pain quotidien. Ses yeux en payent malheureusement le prix, tout comme sa peau.
Ma peau noircit. J'ai essayé de changer même les gels de douche, pensant que c'est ça qui fait ça, mais je me rends compte que ce n'est pas ça. C'est dû à la chaleur du soleil. Deuxième chose, il y a le problème de visibilité. Mes yeux font mal.
Saison également difficile pour Margot, une habitante de la capitale à qui cette vague de chaleur donne du tournis.
La chaleur devient un peu difficile parce que j'ai la tension qui baisse. En sortant, je me retrouve parfois en train d'avoir des vertiges. Et donc, du coup, il faut vraiment, vraiment s'hydrater pour éviter de ne pas se sentir mal.
À ces problèmes de santé s'ajoutent d'autres risques de maladies comme le paludisme et le rhume. Le docteur Benaboukta, spécialiste en médecine nucléaire, recommande prévention et traitements appropriés en cas d'infection.
Je conseille de manger régulièrement les fruits qui sont riches en vitamine C, par exemple les oranges, les pamplemousses, les mandarines, le citron, boire suffisamment en saison sèche, dormir sous moustiquaire, éventuellement se oindre de répellents. Et le traitement du paludisme se fait toujours en milieu hospitalier.
Des mesures à prendre en compte au moment où l'humanité connaît des hausses de température inédites. 2025 devrait être l'une des années les plus chaudes enregistrées sur la planète, selon l'Office météorologique britannique.
Plusieurs facteurs sont à l'origine des fortes chaleurs enregistrées depuis quelque temps. Pour faire face à ces températures élevées, les professionnels de la santé recommandent d'adopter de bons réflexes qui permettent de mieux supporter cette saison sèche. Marie-Claire Messi et Kobina.
La ville de Yaoundé est sous l'emprise des fortes chaleurs depuis quelques mois. Les températures maximales varient entre 34 et 35 degrés. Des vagues de chaleur qui s'expliquent par la grande saison sèche qui dure du mois de novembre au mois de mars. Ces températures élevées sont ressenties de jour comme de nuit. Une montée de chaleur qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien des populations. Dans les domiciles et les bureaux, par exemple, les ventilateurs tournent à plein régime, les éventails, les boissons gazeuses et autres boissons fraîches ont la cote. Ils sont vendus comme des petits pains dans les grands carrefours de la ville de Yaoundé et dans les débits de boissons. Cette montée de chaleur est également préjudiciable aux enfants, les femmes enceintes et aux personnes âgées qui sont généralement exposées à certaines maladies de saison. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur les risques encourus en période de forte chaleur. Ils recommandent, pour s'en prémunir, de boire de l'eau régulièrement, éviter l'alcool, rester au frais, éviter les sorties aux heures les plus chaudes. Des mesures de précaution et d'adaptation essentielles pour faire face à ces vagues de chaleur.
L'ambiance thermique faite de vagues de chaleur actuellement ressenties dans bien de localités du territoire national s'explique par une conjugaison de facteurs aussi bien météorologiques que naturels et structurels. On en parle avec l'invité du 20h, le docteur Ramsès Meillon, climatologue en service à l'Observatoire national sur les changements climatiques. Il a été joint au téléphone par Larissa Ngono.
Docteur Ramsès Meillon, bonsoir et merci de répondre à l'appel du 20h.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui explique les vagues de chaleur qui touchent certaines localités à travers le pays en ce début d'année 2025?
Eh bien, les vagues de chaleur, à ne pas confondre avec des situations de canicule qui peuvent être vécues à d'autres périodes de l'année où on a des températures qui vont même jusqu'à 35 degrés et autres, s'explique, on va dire, par les changements climatiques, oui, mais ce qui est vécu en ce moment, c'est des températures a priori relativement normales. On se situe quand même autour de 30 degrés et dans le même temps, le ciel est dégagé, nous n'avons pas de nuages, l'atmosphère semble assez lourde, l'humidité de l'air combinée à cette température-là donne donc un ressenti assez important sur la peau, d'où les situations d'inconfort thermique, surtout durant la nuit et une partie de l'après-midi.
Docteur Ramsès Meuillon, le phénomène est naturel et fréquent à travers le monde et le Cameroun n'en est pas épargné. À quand la fin de cette période délicate ou tout au moins l'atténuation de ces vagues de chaleur?
D'après nos sorties de modèles, dans le bulletin saisonnier des mois de décembre 2024, janvier-février 2025, la situation pourrait perdurer encore au moins jusqu'au mois de février, avant l'arrivée des premières pluies, tout au moins dans le Grand Sud, pour les zones où la saison des pluies démarrera à partir de la mi-mars. On doit s'attendre encore à cette situation-là pour les prochains jours, pour les prochaines semaines.
Alors le mercure grimpe et logiquement l'environnement et la santé des populations en font les frais, docteur. Sur l'environnement tout d'abord, que faut-il craindre?
Sur l'environnement, il faut craindre une accentuation des feux de brousse. On ne le dira jamais assez, ces situations de chaleur combinées à l'humidité de la végétation qui est assez faible prédispose nos formations naturelles, nos forêts, nos plantations à ce risque de feu et on pourrait donc enregistrer, si des précautions ne sont pas prises, des destructions des plantations des cacaoyères, des bananeraies. À côté de ça aussi, les points d'eau pourraient connaître un tarissement assez drastique.
Un mot sur le plan sanitaire pour terminer, docteur Ramsès Meuillon. Vous n'êtes pas médecin, mais dans le cadre de vos études statistiques, quelles sont les affections associées à cet intervalle climatique selon vos différentes données relevées?
La situation de chaleur vécue est déjà très inconfortable pour un certain nombre de couches de la population, très vulnérables. Nous faisons allusion aux personnes âgées, les personnes de troisième âge, les personnes diabétiques, les personnes hypertendues. Nous faisons allusion aux femmes atteintes de ménopause, aux femmes enceintes et même aux nourrissons. Ces différentes couches de population sont assez vulnérables à l'ambiance thermique en cours. Ça les prédispose à des risques de malaise, des lésions au niveau des voies respiratoires. Et donc, il faut prendre des dispositions pour limiter autant que possible ces effets-là en aérant les pièces d'habitation, en consommant abondamment d'eau pour éviter de se retrouver dans des situations de déshydratation.
Docteur Ramsès Meuillon, je rappelle que vous êtes climatologue en service à l'ONAC, l'Observatoire national sur les changements climatiques. Merci d'avoir répondu aux préoccupations du 20h.
C'est l'ONAC qui vous dit merci.
À Yaoundé, vous écoutez le 20h. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a l'honneur d'informer l'opinion publique en général et les agents publics en particulier que Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde, a produit ce jour ses tout premiers matricules au profit de 1087 fonctionnaires et contractuels d'administration. La production de ces premiers matricules constitue le second acte qui matérialise la mise en service de ce nouvel outil de gestion de la carrière et de la solde des agents publics au Cameroun. À titre de rappel, dès son opérationnalisation le 1er janvier 2025, Aigle a commencé à produire des effets hautement bénéfiques pour les personnels de l'État. C'est ainsi qu'à ce jour, 201 583 agents publics ont bénéficié de la régularisation de leur avancement de classe et d'échelon. La liste rendue publique par le ministre Joseph Lé peut être consultée dans différentes plateformes numériques du MINFOPRA ainsi que sur le site web à l'adresse www.minfopra.gov.cm. Nouvel an, les vœux du directeur général de la CRTV à l'ensemble des personnels. Dans un message rendu public dans toutes les plateformes de l'Office, Charles Ndongo a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de réussite à l'ensemble de ses collaborateurs. Le directeur général de l'Office salue tout d'abord les performances de ses collaborateurs qui ont assuré avec brio la couverture de plusieurs grands événements au cours de l'année 2024. Il les invite par la suite à déployer davantage leur savoir-faire en 2025 à l'effet de transmettre au public d'ici et d'ailleurs toutes les séquences de cette année intense qui n'est pas que politique. En cette année 2025, le directeur général de la CRTV fixe enfin le cap sur le cryptique professionnalisme, patriotisme et pacifisme. La transition digitale reste par ailleurs l'un des chantiers prioritaires de la CRTV au cours de cette nouvelle année. Le directeur général de Election, le directeur général des élections, Eric Essoussé, est en visite de travail dans la région de l'Est, accompagné de ses plus proches collaborateurs. Il doit procéder à la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter les services de la délégation régionale d'Elections Cameroun à l'Est. Luc Ouno, CRTV Est.
À l'entame de sa visite de travail de deux jours dans la région du Soleil Levant, le directeur général des élections, Eric Essoussé, s'est rendu dans les services du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo. Après des échanges à huis clos avec le numéro 1 de la région, il a également rencontré le préfet du département du Lomé Diérém, Simon Kwetido, engagé à travailler en synergie avec l'organisme en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Éric Essoussé est arrivé à l'Est dans un contexte où les opérations de révision des listes électorales sont en cours et Elections Cameroun met tout en œuvre afin d'enrôler le plus grand nombre d'inscrits. Plus de 400 de ces derniers sont déjà recensés en janvier 2025, selon les responsables de l'ECAM à l'Est, qui vise un objectif de 35 000 nouveaux inscrits en 2025. Le point culminant de la visite de travail du directeur général des élections dans la région de l'Est sera la pose de la première pierre du bâtiment devant abriter les services de la délégation régionale d'Elections Cameroun à Bertois dans la région de l'Est au quartier Birpondo. L'événement a lieu ce mardi 14 janvier 2025. Oui. Bertois, Luc Owono, CRTV.
Encore un mot de politique, le très honorable président de l'Assemblée nationale, chef de délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'extrême nord, informe tous les membres de la délégation permanente régionale et leurs chargés de mission, les chefs de délégation permanente départementale et leurs chargés de mission, les membres du gouvernement, les parlementaires, les maires, les présidents de section RDPC, les chefs de premier et deuxième degré que la réunion initialement prévue le mercredi 15 janvier 2025 à 10h précise au cercle municipal de Marois est reportée au mercredi 22 janvier à la même heure et au même lieu. Les encouragements du BIR au comité de vigilance de Doublé et de Kanglerie dans le Mayo Sava, le bataillon d'intervention rapide qui a toujours reconnu leur rôle dans les renseignements, a mis à leur disposition des denrées alimentaires et du matériel de travail. Ces appuis constituent une source de motivation supplémentaire reconnue par les intéressés. En ligne de Doublé, Malmoussa le Doublaise.
Doublé, à 18 km au nord de Mora, tient sa sérénité. Cette localité du Mayo Sava, autrefois commerçante, qui imposait des arrêts aux usagers de l'axe Marwa-Koussiri, sur le corridor Douala N'Djamena, a presque oublié les années de pression de Boko Haram sur sa population. La cérémonie de remise des appuis au comité de vigilance est donc la preuve de cette embellie sécuritaire. Le BIR, le bataillon d'intervention rapide, en première ligne dans cette guerre asymétrique, reconnaît leur travail. Chef de bataillon Daniel Ndamfay Sangou, représentant du commandant de l'opération Alpha du BIR.
C'est une guerre qui a une origine transfrontalière, qui a gangréné notre population. C'est fort de cela que nous trouvons au sein de la population une véritable source de renseignements.
Rester aux côtés de l'armée est une nécessité pour les populations si l'on veut anéantir Boko Haram. Le maire de Mora, Chetima Hamidou.
Je les exhorte à continuer à travailler. Et à travers eux, je voudrais demander à ceux qui sont encore en brousse, qui n'ont pas encore tenu la main tendue par le chef de l'État, à saisir cette occasion.
En écho à l'appel du chef de l'exécutif municipal de Mora, les comités de vigilance dont le moral a été boosté restent déterminés à contribuer au retour de la paix dans l'extrême nord.
Souleymane Daoud, présent le comité de vigilance de Doublé. Quelqu'un part au champ, on va les kidnapper. Vous n'acceptez pas.
L'opération Alpha du BIR poursuit ce mardi son opération d'encouragement au comité de vigilance à Ouaza et à Tildé dans le département du Logone-Chari. Jean Guizé, Malmoussa, le Doublaise, Doublé, CRTV.
Le secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise, EPC, le révérend Célestin Abesolosé, rappelle à toute la communauté chrétienne de l'EPC en général et les délégués dûment désignés des consistoires en particulier que la 68e Assemblée générale de l'EPC, convoquée conformément à la constitution de l'Église, va s'ouvrir effectivement le mardi 14 janvier 2025 à l'esplanade du secrétariat général de l'EPC à partir de 9h précises. Il convient à cet effet de rappeler qu'en dehors des invités et autres personnels d'appui à l'organisation, seuls les délégués détenteurs des badges seront admis dans la salle des travaux. Quelques notes à l'étranger avant le sport au Gabon. Les députés en pleine vacances parlementaires ont été rappelés pour une session extraordinaire consacrée à l'examen du projet de code électoral. Nigeria, plus d'une dizaine de civils tués par erreur dans une frappe aérienne, une frappe aérienne de l'armée nigériane visant des groupes armés dans le nord-ouest du pays en proie à des conflits a tué par erreur un certain nombre de civils travaillant dans ces unités de sécurité. Le sport, judo, les travaux du congrès annuel ordinaire de l'Union africaine de judo s'ouvrent demain mardi à 15h à Casablanca au Maroc. Le Cameroun va participer à ces assises électives avec le président de la Fédération camerounaise de judo, Maître Alain Christian Kingé, et directeur sportif de l'Union africaine de judo. En marge de ces travaux, l'Open de judo junior, cadet et senior, dames et messieurs, va se dérouler du 16 au 19 janvier prochain. Football, MTN Elite One, Colombe Sportive d'Ouja et Lobo conserve le fauteuil de leader grâce à sa victoire 2-1 sur Bambutos Club d'Ombouda. Large victoire de Gazelle du Nord sur Young Sport Academy de Bamenda, 4-1. Autre fait marquant de cette journée, la première victoire de la saison pour l'Aigle Royal du Mungo. Le point au thème de la 7e journée avec Didier Maru Setundi.
20 buts ont été inscrits lors des 8 matchs disputés ce week-end. Colombe, Dija et Lobo, après quelques moments d'inquiétude, dominent finalement Bambutos d'Ombouda 2-1. Les Astres de Douala enregistrent les 3 points de la journée en battant la Panthère Sportive d'Undé. La série noire se poursuit pour les Sumento malgré l'arrivée de Clément Arouga au banc de touche de l'équipe. Gazelle Football Academy a explosé Young Sport Academy de Bamenda 4-1. Les académiciens sont des bons voyageurs jusqu'ici. Victoria United l'emporte 3-1 devant AS Fortuna. Le choc canon contre Coton Sport de Garoua s'est soldé sur le score d'un but partout. Même résultat entre Stade Renard de Melon et Fauve Azur de Yaoundé. PWD de Bamenda et Union Sportive de Douala se séparent sur 1-0-0. Aigle Royal du Mungo enregistre sa première victoire de la saison en dominant la Dynamo de Douala sur le score d'un but à 0. Colombe Dija et Lobo se maintient en tête du classement avec 17 points. Gazelle Football Academy, 14 points. Victoria United complète le podium avec 14 unités également. La 8e journée démarre ce mercredi avec 2 matchs avancés. Stade Renard de Melon contre Gazelle du Nord et Union Sportive de Douala reçoit Coton Sport de Garoua.
À retenir de ce journal qui se referme, la lutte contre l'immigration clandestine, l'Africa Foot s'associe à l'Agence des Nations Unies pour les migrations mondiales pour sensibiliser les footballeurs contre cette tentation des temps modernes. Les températures anormalement élevées, diurnes comme en nocturne, avec baisse d'amplitude thermique entre le jour et la nuit, le 20h a donné quelques conseils pratiques pour faire bon ménage avec les hautes températures de saison. Et puis l'Aigle qui a pondu ses premiers matricules, l'application informatique de gestion logique et des effectifs de la solde a généré ce jour plus de 1000 matricules au profit des fonctionnaires et contractuels d'administration. La modernisation de la fonction publique camerounaise est véritablement sur les rails. Équipe de production technique, Célestin Gouest, réalisation Bernadette Moussomo, Jean-Philippe Ebela, Jean-Brice Mofort, rédacteur en chef soir, Simon Longa. Il est 20h28 à Yaoundé, c'était le 20h. À demain. Au revoir.